soir, c'est le moment des amis d'Orwell.
C'était la patrouille de police.
Snooping into people's windows.
Qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des
gens. The patrols did not matter, however.
Seul comptait.
Only the thought police mattered.
La police de la pensée.
Ce soir, comme promis, extrait d'une discussion sur le Grand Paris Express avec la rédaction du journal Le Chiffon, qui en fait le dossier principal de son numéro 21, sorti le mois dernier. Retour à un des thèmes favoris des amis d'Orwell, surtout il y a une quinzaine d'années. Et oui, ça fait presque 20 ans hein, qu'on est à l'antenne de Radio Libertaire. Les amis d'Orwell, hein, je rappelle, c'est une idée de l'équipe de Souriez, vous êtes filmés. Et on s'intéressait beaucoup à l'urbanisation, la gentrification à marche forcée de la région capitale, comme on l'appelle maintenant, dans les années 2010, autour notamment de la COSTIF, hein, qui était une coordination des luttes, coordination autonome, des luttes locales contre le Grand Paris. Les grands projets inutiles de la région capitale, ça nous tapait déjà sur le système. On se souvient d'Europa City, hein, le projet mégalo du groupe Auchan et de la famille Muliez, au nord de Paris, sur le triangle de Gonesse, qui finalement fut débranché officiellement par l'Élysée en 2018, mais officieusement, hein, ce sont les promoteurs qui ont lâché l'affaire. Alors si vous cherchez dans nos archives sur souriez.info, il y a pas mal d'émissions consacrées à cette plaie du Grand Paris. Et là donc, en 2026, le journal Le Chiffon remet le couvert dans le détail sur ce grand béton express, hein, un chantier donc pharaonique dont le coût a déjà triplé, passant de 20 à 60 milliards d'euros. Et on verra dans cette émission qu'il faudra sans doute compter sur une ardoise finale de 100 milliards, en gros. Et donc Le Chiffon a présenté son dernier numéro en invitant Harm Smith, un urbaniste qui habite sur le plateau de Saclay et connaît bien le sujet. Il a écrit un livre dont on va parler juste après, et il va répondre donc aux questions de Gary du Chiffon. Discussion qui a eu lieu début juillet à la maison du zéro déchet, installée dans l'ancienne caserne de Reuilly, dans le 12e arrondissement de Paris. Alors on va d'abord demander à Harm Smith de se présenter,
Harm Smith,
et on laissera
je suis
Gary
de la région du plateau de Saclay depuis 1976. Je m'occupe de problèmes d'urbanisme depuis des dizaines d'années. J'ai rencontré des gens de haut niveau dans ce domaine qui m'ont formé. Petit à petit, donc, je suis moi-même devenu un spécialiste.
Et donc, votre intérêt en tant qu'un citoyen, individu, ou dans votre métier, vous avez été confronté aux différents projets d'aménagement dans la région ?
Oui. Le plateau Saclay, c'est une source de convoitise depuis Mathusalem. Mm-hmm. C'est une grande tache blanche sur la carte, donc ça invite des aménageurs de tout poil à s'intéresser à ce domaine, à ce territoire-là.
Parce qu'il n'y a pas que le transport public, il n'y a pas que le Grand Paris Express, là-bas, qui fait débat. Il y a aussi tout le plateau de Saclay qui a été réaménagé par le Technopole, etc.
Exactement, mais ça va ensemble. Ouais. Tout ça vient d'un projet de M. Christian Blanc, qui voulait effectivement créer un cluster sur le plateau de Saclay, desservi par un métro rapide.
Que Christian Blanc, là, on remonte à très loin. Hein.
C'est
quand même, c'est une vingtaine d'années, non ?
Oui, c'est ça, exactement. 2003, il a commencé à s'intéresser à ce territoire-là.
Qu'est-ce que vous pensez du Chiffon, le journal ?
Oh, c'est bien, c'est un journal militant, j'aime bien ce type d'initiative.
Donc vous êtes longuement cité dans l'article, dans un des articles justement qui parle du Grand Paris Express. On vous présente comme un ex-ingénieur.
Oui, oui, c'est idiot. Je suis toujours un ingénieur.
Oui, c'est ça.
D'ailleurs, ça ne se perd pas. Hein. C'est ça. Je serai ingénieur jusqu'à la fin de ma vie.
Mais c'était quoi votre spécialité ?
Mais d'ailleurs, ça a été corrigé entre-temps. Moi, j'étais dans l'informatique et les réseaux. Mm-hmm. Mais comme je disais, je me suis toujours intéressé par le milieu associatif, aux problématiques d'urbanisme. Et petit à petit, j'ai déplacé le curseur entre la techno et ce domaine-là, entre le hard et le soft.
Et comment vous êtes intervenu techniquement dans le débat dont on va parler ce soir ?
D'une part par l'intermédiaire d'un site web, d'autre part par des articles, mm-hmm. Et puis dernièrement par un livre qui s'appelle L'imposture du Grand Paris Express, un éléphant blanc qui trompe énormément.
D'accord. J'ai l'impression que moi, c'est un débat très technique, mais en même temps qui concerne tout le monde. C'est un peu la question cruciale de tous les projets d'aménagement. On fait croire aux citoyens en fait que c'est très technique, donc ils comprennent rien, et donc on décidera à leur place. C'est un peu ce qui se passe là aussi ?
Oui, certainement, mais les gens qui décident, ils comprennent rien non plus. Donc c'est un problème à deux niveaux.
Ok, merci.
Bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent pour ce débat du Chiffon. D'abord, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Le Chiffon, c'est un journal qui a un peu plus de 5 ans et demi de publication, qui se lance à la suite d'un constat un petit peu désarmant de simplicité, c'est qu'il n'existe pas à Paris, en Ile-de-France, de journaux régionaux indépendants. Il existe Le Parisien, propriété de Bernard Arnault, première fortune d'Europe. Il existe quelques journaux d'arrondissement, de quartiers ou municipaux qui sont davantage les services communication de la municipalité qu'autre chose. Et puis, on a quelques copains dont on se sent parfois très proche. Le petit ZPL qui publie un journal micro-local à Massy-Palaiseau, plateau de Saclay.
Ça existe toujours.
Le Chiffon est un journal animé par toute une rédaction, très largement non professionnelle et bénévole. Et donc, on publie trimestriellement 20 pages qu'on veut le plus joli possible, avec un travail iconographique, graphique, attentif. C'est aussi un journal qui, d'emblée, a voulu proposer du papier comme une critique en acte de l'informatisation de nos pratiques d'information. Il était hors de question pour nous que notre travail participe à maintenir les gens devant les écrans. Qu'on critique couramment dans nos colonnes. On est un journal qui est généraliste, mais quand même marqué par une ligne éditoriale d'écologie qu'on peut dire technocritique. On dit que la trajectoire de technologisation, la fuite en avant dans l'économie et dans l'innovation de nos sociétés est porteuse d'une destruction écologique et d'une dépossession de nos capacités d'existence sociale. Notez bien que notre diffusion se fait donc dans des librairies, une centaine de lieux à l'heure actuelle, à la criée en manifestation, et aussi, et j'insiste là-dessus, par l'abonnement. On a des formules abonnement annuelles ou récurrentes. Et donc, voilà, à l'heure de la concentration médiatique et de la fragilisation quand même des journaux papier, on vous invite à réfléchir à un abonnement. C'est pour nous la meilleure manière de nous défendre dans la durée. J'ajoute quelques mots pour dire que nous sommes membres cofondateurs du syndicat de la presse Pas Pareil, qui est un petit syndicat qui rassemble aujourd'hui un peu plus de 45 rédactions. Silence, Le Postillon, L'Âge de Fer, La Brique, La Topette, etc. Qui a pour but de se serrer les coudes. Donc on a décidé, comme on le fait quasiment systématiquement maintenant, de faire un débat à la sortie de chaque numéro pour présenter un petit peu nos, une partie de notre travail et aussi pour approfondir des choses qu'on a insuffisamment abordées dans nos colonnes. Donc ce soir, on a décidé d'appeler ce débat « Comment et pourquoi critiquer le Grand Paris Express ?» Et on reçoit pour ça, et je remercie Armzik. Tu es ingénieur versé dans l'aménagement du territoire et les mobilités urbaines. Tu es coordinateur du collectif Opération d'intérêt national Saclay, Colosse, et sympathisant du collectif contre la ligne 18, CCL 18. Et tu es également riverain de Saclay, ce qui explique un certain nombre de choses. Tu as coécrit en 2025 l'imposture du Grand Paris Express, un éléphant blanc qui trompe énormément, avec Jacqueline Lortiois, avec Jean Villiers et Jean-Pierre Orfeuille. Et on te connaît un petit peu au chiffon, puisqu'on t'a interviewé dans notre numéro de l'automne 2025 autour d'une critique de la dite transition écologique francilienne, que vous pouvez retrouver là-bas, qui s'appelle Grand Paris Express, le coût faramineux du vide. J'ajoute quelques autres éléments avant de céder la place à la discussion sur le Grand Paris Express. Le journal se crée en fait dans un bouillonnement post-gilet jaune, dans l'envie d'une réappropriation de ses moyens d'information, mais aussi dans un contexte de troisième grande transformation de la région, après Haussmann, après Paul Delouvrier, on y reviendra peut-être, avec la mise en place de ce méga projet urbain de transport. Donc en quelques chiffres, le Grand Paris Express, c'est 4 nouvelles lignes de métro, la ligne 15, 16, 17 et 18, c'est l'extension de la ligne 11 et de la ligne 14, c'est la création de 200 km en tout, mais 180 souterrains. 200 km, oui, pas 200 km. Voilà, donc les tunneliers sont au travail en ce moment même, c'est la création de 68 nouvelles gares, pour un budget estimé initialement à 20 milliards d'euros, qui est en train au moins de tripler, ce qui en fait le chantier de bâtiments de travaux publics le plus onéreux d'Europe. À l'origine, le Grand Paris Express, avec les quartiers autour des gares, ouvre la porte à une urbanisation de 140 km², c'est-à-dire à peu près un peu moins d'une fois et demie la superficie de Paris constructible. Notez que le premier tronçon des nouvelles lignes, le tronçon de la ligne 18, devrait a priori ouvrir, peut-être que tu as d'autres informations, à la fin de l'année 2026. Donc je vais te laisser un peu de temps pour développer. Est-ce que tu peux nous présenter la genèse du Grand Paris Express et ensuite comment tu as été amené à t'intéresser à ce sujet.
La genèse du Grand Paris Express, je la situe en 2003. Christian Blanc a reçu une mission du Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, de voir ce qu'on pouvait faire avec ce qui se passait sur le plateau de Saclay, parce qu'il y avait Polytechnique et Supélec installés.
Est-ce que tu peux nous préciser qui est Christian Blanc ?
Christian Blanc, c'est un homme politique qui a navigué à différents niveaux. Il a été aussi, avant d'être homme politique, il a été président de la RATP et puis de Air France. Mais à partir de l'époque dont je parle, il est entré en politique et il avait fondé son propre mouvement dont le nom m'a échappé entre-temps, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Et donc en 2003, il a reçu cette mission de voir ce qu'on pouvait faire sur le plateau de Saclay, sachant qu'il y avait déjà des institutions de renom y installées. Et il est revenu avec un rapport qui s'appelait « Pour un écosystème de la croissance ». Et puis à partir de là, il a reçu une deuxième mission de Raffarin en 2004, donc. De laquelle il a tiré un livre qui s'appelle « La croissance ou le chaos ».
Dont je vais lire un extrait ensuite pour votre plus grand bonheur.
Qui est publié en 2006. Mais entre-temps, en 2004, je crois, il avait rencontré Sarkozy et lui avait vendu son projet pour le plateau de Saclay, qui consistait à y installer un cluster, c'est-à-dire un ensemble d'éducation supérieure, de laboratoires et d'industrie, dont il parlait avec enthousiasme, et il prévoyait que ça allait créer des milliers de start-up tous les ans, ou centaines, je ne me souviens plus. Et dans ce livre, La croissance ou le chaos, il définissait avec une relative précision ce qui allait se passer, et il figurait déjà un métro qui allait desservir le dit cluster avec Paris et avec les aéroports. Donc il voyait ça comme la Silicon Valley à la française. Ce titre existe toujours d'ailleurs. C'est là que je situe donc le début du Grand Paris Express, parce que à partir de là, quand Sarkozy a été élu en 2007, il a appelé presque aussitôt après Christian Blanc comme secrétaire d'État au développement de la région capitale. C'était ça son titre. Ça a entré en concurrence directe avec la région Île-de-France, bien entendu, qui était à l'époque dirigée par Jean Paul-Huchon. D'ailleurs, les deux se connaissaient parce qu'ils avaient été au cabinet de Michel Rocard auparavant, et ils s'étaient côtoyés là. Ils n'étaient déjà pas très bons amis à l'époque.
Donc, il devient secrétaire d'État chargé du développement de la région capitale.
Voilà, donc c'est là qu'il a en fait la mission de réaliser le projet qu'il avait proposé à Sarkozy en 2004. Sarkozy, à l'époque, était ministre des Finances, quoi. Il a écrit lui-même, Sarkozy, que c'est Christian Blanc qui est venu lui présenter son projet et qu'il a sauté dessus. Il voyait certainement une occasion pour laisser une cicatrice sur la terre. Donc il a adopté ce projet vite fait et puis l'a fait réaliser. Et de là est venu le Grand Paris Express. Dans un premier temps, ça, c'est le projet de Christian Blanc, ça s'appelait le réseau de transport du Grand Paris, RTGP. Les journalistes l'ont aussitôt appelé le Grand Vide, parce que ça ressemble à un vide quand on en fait la carte. Il y a eu un débat public. Il y a eu un débat public en 2010, fin 2010-2011, où ce réseau était mis en concurrence avec... ce projet de réseau était mis en concurrence avec un autre projet, celui de la région, qui s'appelait Arc Express. Et à la fin de ce grand débat public, on a décidé de fusionner les deux idées, en fait, de faire la somme des deux, grosso modo.
En quoi consiste Arc Express, en quelques mots ?
Arc Express était aussi un réseau autour de Paris, mais pas sous forme de huit, simplement sous forme de cercle, et plus proche de Paris que ce que proposait le réseau de Christian Blanc. Mais bon, il y a des parties qui sont proches. Ce qui est aujourd'hui la ligne 15, enfin qui va être la ligne 15 sud, c'était déjà proche de ce que proposait l'Arc Express à l'époque, sauf que l'Arc Express était un peu plus proche de Paris.
Et donc, il y a un mélange, disons, un rassemblement des deux projets, d'Arc Express et du réseau de transport du Grand Paris, qui donne naissance, qui lance le Grand Paris Express.
Oui, c'est ça. C'est à la fin de ce débat public de la CNDP, qui a duré trois mois.
La Commission nationale du débat public.
Oui, pardon. Qui a duré 1er octobre jusqu'à fin janvier 2011. Il y a eu un peu de débat, mais en fait, la messe était dite auparavant. On a exactement obtenu ce que Christian Blanc voulait au départ. C'était une mascarade, ce débat public. Et puis finalement, ça s'est apaisé parce que l'État avait des moyens de pression sur la région. Huchon avait quelques casseroles, donc on pouvait facilement lui mettre la pression. Donc ça s'est fini par un abandon de toute résistance de la part de la région.
Et alors, est-ce que tu peux nous raconter rapidement la sortie du jeu, disons, de Christian Blanc jusqu'à au début des travaux qui interviennent, si je ne dis pas de bêtises, en 2016?
Enfin, Christian Blanc, il a été viré à la suite d'une affaire de cigares. Il fumait des cigares aux frais de l'État. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Enfin, je pense que c'est un prétexte. Enfin, il ne voulait de toute façon pas rester là éternellement. Et une fois que la chose était lancée, la loi du Grand Paris, la loi du Grand Paris du 3 juin, c'est là que tout a été scellé, qui donc définissait le réseau du Grand Paris. Le Grand,
donc 3 juin 2010.
Oui, le réseau de transport du Grand Paris vu par Christian Blanc, qu'on appelait donc le Grand Vide. Et qui définissait en annexe un projet pour le plateau de Saclay. Le plateau de Saclay a toujours été le point de départ du raisonnement de l'ambition de Christian Blanc, mais il a réussi à envelopper ça dans un truc plus important qui englobait le réseau de transport. Le projet pour Saclay, il est passé en annexe sans jamais avoir été soumis à débat public, alors qu'il aurait fallu, puisque c'est un projet dont le budget est très largement au-dessus de ce qui nécessite un débat public CNDP. Mais il a réussi à contrôler cette difficulté.
Le Grand Paris Express, c'est le thème de la discussion de ce soir dans Les Amis d'Orwell sur Radio Libertaire. Discussion organisée début juillet par le journal Le Chiffon. Et justement, j'interromps un instant l'ami Gary pour vous passer quelques archives. Voilà ce qu'on disait aux infos il y a 16 ans, en 2009, sur ce projet cher à Christian Blanc. Des extraits de JT des 7 et 8 octobre 2009 sur Télé-Essonne et France 3 Île-de-France.
Il se rêve comme le Paul de l'ouvrier du 21e siècle. Christian Blanc, secrétaire d'État au développement de la région capitale, rend sa copie aujourd'hui au gouvernement. Comme Paul de l'ouvrier, grand commis du général de Gaulle, qui fut l'aménageur de l'Île-de-France, Christian Blanc doit donner un second souffle à la région en perte de vitesse par rapport aux grandes métropoles européennes. Mais les temps ont changé, la décentralisation est passée par là, et il est loin le temps où l'État décidait de tout. L'autoritarisme de Christian Blanc avec les élus locaux lui ont valu un clash avec le Premier ministre la semaine dernière. Voilà pour la méthode. Reste le projet. Il s'articule avant tout autour des transports, nœud gordien de la région. Christian Blanc préconise un super métro automatique reliant 7 grands pôles économiques, dont le plateau de Saclay pour l'Essonne. 140 km en forme de 8, coût estimé un peu moins de 21 milliards. Premier coup de pioche en 2013. Reste à savoir comment et qui va financer tout ça.
Cette gare, le projet de métro automatique devrait être plus léger en Essonne qu'ailleurs. Il ne transporterait que 250 voyageurs par rame au lieu de 1000 autour de Paris. Ni la question des transports sur pneus ou sur fer, ni la proportion d'aérien ou de souterrain ne sont tranchées. Ce matin, il s'agissait surtout de rassurer, notamment ceux qui craignaient par exemple les vibrations produites par ce train.
S'agissant des inquiétudes sur les nuisances, c'est un progrès que l'arrivée de ce métro, et notamment dans sa forme aérienne, sur le plateau de Saclay.
Aujourd'hui, on peut faire des métros aériens qui sont tout à fait silencieux, qui ne gâchent pas le paysage, et qui en plus ont l'avantage pour les gens qui sont à l'intérieur de ces métros d'avoir une vue sur le paysage qui est quand même agréable.
Il faut maintenant que l'on discute tranquillement sur la formule aérien, souterrain, on en est à 50-50.
Un métro qui intéresse 8000 personnes au CEA, 3000 au sud du plateau de Saclay, 3000 autres au nord, sans compter les 10 000 du technocentre de Renault et les 28 millions de passagers d'Orly qui sont tous contraints d'utiliser leur voiture pour accéder à la zone.
Quand Paris sera à 30 minutes du plateau de Saclay, ça sera pour nous un vrai désenclavement, aussi bien pour nos salariés que pour les visiteurs qui viennent dans nos centres internationaux tous les jours et qui travaillent sur nos grands projets de recherche.
Le but, faire du plateau de Saclay le plus grand pôle scientifique d'Europe. Le métro qui le desservira pourrait être mis en service en 2025 si le calendrier est respecté et si aucun blocage politique ne l'arrête ou ne le freine d'ici là.
Alors, je vais faire un premier interlude ô combien littéraire, puisque donc, je vais vous lire la croissance ou le chaos de Christian Blanc, qui est une sorte de programme pour le Grand Paris Express. Donc, en introduction, il dit... Il écrit « Selon les sensibilités politiques, la vision de la France à moyen et long terme et le choix des priorités peuvent varier. Du moins, jusqu'à un certain point. Car il y a une donnée fondamentale que devront intégrer tous ceux qui prétendent redresser la France. Tout procède de la croissance. Que vous soyez de droite, de gauche ou d'ailleurs, vous ne pouvez pas vous soustraire à cette réalité. Définir une stratégie de croissance crédible est un impératif absolu pour pouvoir entraîner le pays sur le chemin d'une ambition collective. Montrons-le en revenant brièvement sur deux événements majeurs de l'automne 2005. L'explosion de violence dans les banlieues d'une part et les révélations sur l'ampleur de la dette publique et sur ses conséquences prévisibles d'autre part. Sans croissance, aucun accompagnement social ne pourra sortir les banlieues de l'ornière, car le chômage de masse continuera à obscurcir l'horizon de la jeunesse. De même, sans croissance, inutile d'espérer rompre avec la spirale du déficit ou rembourser la dette. Que vous préconisiez la hausse des impôts, la baisse des dépenses ou un mixte des deux, sans croissance, l'effort demandé pour résorber le déficit budgétaire est insoutenable à moyen terme. Or, s'il n'est pas rapidement mis un terme à la dérive des comptes de l'État, la France risque de se retrouver dans une situation proche de celle qu'a connue l'Argentine il y a quelques années. L'alternative est donc simple. Soit la France renoue avec la croissance, soit elle sombre dans le chaos. Alors, arme, interdit de rire hein, sur cette belle prose. Il y a la loi du Grand Paris et puis le décret quelques jours plus tard en 2010 qui vise à verrouiller, qui prennent des mesures, disons, pour verrouiller toute possibilité de contestation de ce tracé de métro. Est-ce que tu peux revenir sur les spécificités réglementaires législatives de ce projet et en quoi tout était fait pour que ça aboutisse?
Ah bah oui. Avec la loi du Grand Paris, on créait la Société du Grand Paris, qui avait pour seule et unique mission de réaliser ce Grand Paris Express. Et cette Société du Grand Paris, elle est au-dessus de l'État, en quelque sorte. Elle dépend de personne. Elle n'a des comptes à rendre qu'au Premier ministre. Et elle a son financement, son budget assuré par des taxes, des impôts fléchés, donc qui lui sont directement destinés. Et puis, par ailleurs, elle fait appel à des emprunts massifs sur le marché financier jusqu'à très long terme, jusqu'en 2070 au moins. On a créé une structure qui était inattaquable, qui dépendait de personne, donc on pouvait difficilement barrer le chemin.
Alors justement, est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail du fonctionnement de la Société du Grand Paris? Une de ses spécificités, c'est également qu'elle était chargée, elle avait des prérogatives étendues dans la préparation des études du Grand Paris Express, puisqu'elle était chargée des études d'opportunités économiques, notamment en termes de transport, et de la réalisation. Donc c'est ce qui faisait dire à Jean Vivier, hein, qui a été le père de la ligne 14 du métro, il a dit que là, c'est donner à une société la possibilité d'être juge et partie, de juger la pertinence d'un projet dont elle a la charge de la réalisation. Est-ce que tu peux revenir justement sur ce mélange des genres et sur la place des études de faisabilité et la manipulation statistique, la manipulation des modèles pour justifier le Grand Paris Express?
Tout ça, c'est passé plutôt derrière les coulisses. Hein. Là, je n'ai pas été témoin de comment ça a été élaboré. Mais tout ça s'est passé dans les bureaux, dans les salons feutrés. Mais toujours est-il que cette Société du Grand Paris avait fixé complètement, après le débat public, avait fixé complètement sous le nom de schéma d'ensemble la constitution de ce réseau avec tout plein de détails. Hein. On voyait exactement où étaient implantées les gares et on était tellement sûr de son affaire qu'on n'a même pas prévu dans la loi que ce schéma d'ensemble pouvait être modifié un jour ou l'autre. Donc il était gravé dans le marbre. Et bon, c'est bien plus tard
dans un article obscur de la loi NOTRe, qu'on a rajouté un article qui permettrait éventuellement de modifier ce schéma d'ensemble. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas eu lieu.
Tu peux quand même nous en dire plus sur les études économiques ad hoc, avec la notion de bénéfice conventionnel qui a été utilisée, oui. Et la notion de méga-projet transformationnel qui va être important quand même.
Oui, transformationnel, je ne sais pas où ils cherchent ça.
Est-ce que tu peux nous expliquer ces notions pour commencer ?
Oui, on présente ça comme un méga. Ça va transformer toute la région parisienne, mais bon, ça c'est de l'intox. Hein. Effectivement, la Société du Grand Paris est maître d'ouvrage donc, de ce projet du Grand Paris Express. Et pour le justifier, il fallait qu'il fasse. Des études socio-économiques. Enfin, ça fait partie des enquêtes publiques. Dans chaque enquête publique, pour chaque ligne, il y a un aspect, et aussi au niveau global, il y a un aspect, un chapitre qui s'appelle évaluation socio-économique. Ça consiste à peser les coûts et les bénéfices. Bon, les coûts, on les exprime en euros, c'est pas difficile. Encore qu'elles sont sous-estimées, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais les bénéfices, par contre, c'est des choses moins tangibles. Par exemple, on dit qu'on va gagner du temps avec ce métro, ou on va être plus confortable dans le métro. Mais tout ça, c'est très difficile à exprimer en euros. Mais on a trouvé quand même des formules pour ça. Il y a un texte officiel ministériel qui dit les valeurs associées à chaque minute gagnée, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle les bénéfices conventionnels. Mais en plus de ça, ça ne suffisait pas pour justifier le projet compte tenu du coût. En plus de ça, donc, la SGP a inventé des bénéfices non conventionnels qui sont entièrement de son jus, qui n'existaient pas auparavant, qui ont introduit des critères qui ont été inventés pour le besoin. Et en particulier, il y a deux critères qui s'appellent d'une part le nombre d'emplois créés et d'autre part ce qu'on appelle les effets d'agglomération. Alors, les effets d'agglomération, ça c'est quelque chose qui existe. C'est l'idée même de la ville, en mettant ensemble un certain nombre de talents, de compétences, etc., on peut faire plus. Donc la somme est plus grande que les individualités. Mais par contre, les emplois créés, ça c'est une vaste fumisterie. On prétend que le nouveau réseau va créer des emplois. Et ça n'a été prouvé par aucune étude. Et d'ailleurs, le plus fort, c'est que quand Christian Blanc a commencé à parler de son réseau, il proclamait que ça allait créer 4% de croissance. On retrouve son sujet favori.
Par an, oui.
Et ça allait créer 1 million d'emplois en région parisienne.
Sur quelle période?
Jusqu'en 2030, je crois. 1 million. Alors, comme je disais, la création d'emplois par une infrastructure de transport, ça n'a été prouvé par aucun scientifique. C'est purement de l'imaginaire. Bon, en plus, même ces bénéfices non conventionnels ne suffisaient pas, parce que certaines lignes, qu'on appelle nous les lignes à la campagne, c'est-à-dire la 17 Nord, qui devait desservir Europa City, qui n'existe plus.
Peux-tu nous préciser le terminus et le tracé de la 17 et de la 18 ?
Oui.
On est en tête.
17, il y a deux tronçons. Un tronçon qui est commun avec la ligne 16, et qui va jusqu'à Bourget. Et ensuite, il y a un tronçon nord qui va du Bourget jusqu'à le Ménil-Amelot, qui est un hameau un peu au-dessus, au nord de Roissy-Charles de Gaulle. Donc ça, c'est la ligne 17 Nord, qui traverse le triangle de Gonesse, une zone agricole fertile. Et puis la ligne 18, c'est similaire, mais ça doit desservir le cluster du plateau de Saclay. Là aussi, il y a plusieurs tronçons. Disons en gros qu'il y a un tronçon est qui va de l'aéroport d'Orly jusqu'à Saclay, et puis un deuxième qui va de Saclay à Versailles. Donc c'est un tronçon est et un tronçon ouest, et ils sont décalés dans le temps. Le tronçon ouest, c'est probablement le premier qui va ouvrir. On prévoit maintenant que c'est début décembre ou fin décembre, je ne sais plus, de cette année. Ce serait la première ligne du Grand Paris Express qui sera mise en service. Et puis donc là, il y a le tronçon ouest qui traverse une zone complètement agricole du plateau de Saclay avec une section qui fait 7 km de long où il n'y a pas d'arrêt. Ça, c'est du jamais vu nulle part pour un métro dans le monde. Donc, ce tronçon-là, il y a évidemment très peu de clientèle puisque ça ne dessert que les vers de terre. Donc, c'est forcément l'amorce de l'urbanisation massive du plateau de Saclay à terme. Pour l'instant, on dispose d'une zone de protection, une zone de protection naturelle, agricole et forestière sur le plateau de Saclay, que les associations ont arraché lors de la définition de la loi du Grand Paris. Mais je pense que c'est un leurre qui servait juste à faire passer la pilule du métro. Il y a eu telle pression pour faire rentabiliser cette ligne et rajouter des gares au milieu sur ce tronçon de 7 km que, tôt ou tard, le lobby des BTP il va avoir raison de cette zone de protection.
It's been a long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a I'm
soir, dans Les Amis d'Orwell, on se penche sur les dessous du Grand Paris Express, le super métro qui prévoit d'encercler Paris avec 4 nouvelles lignes, 15, 16, 17 et 18. Alors je vous conseille d'avoir un petit plan sous les yeux, hein, parce que c'est pas facile à décrire à la radio. En gros, vous avez la 17 au sud entre Versailles et Orly, en passant par le plateau de Saclay. La 15 qui est censée faire le tour de la capitale, de Saint-Denis à Nanterre en passant par l'Est, et les 16 et 17 qui seront des extensions à l'Est et au Nord jusqu'à Roissy. Ça fait en gros 20 ans qu'on en parle, et on essaye d'y voir plus clair ce soir grâce à la discussion. Je repasse la parole à Gary.
Pourquoi dis-tu que on peut craindre une urbanisation du plateau de Saclay et plus largement une urbanisation le long des lignes du Grand Paris Express? Bah, tu dis avec d'autres, avec Jacqueline Lortiois notamment, que le Grand Paris Express n'est pas un projet de transport, mais est un projet d'attractivité territoriale.
C'est pas nous qui le disons, hein, c'est les promoteurs de ce projet qui le vendent comme tel. Pour le plateau de Saclay, comme je disais, le tronçon ouest de la ligne 18 traverse une zone complètement agricole. On a donc réussi à y conserver pour l'instant 2400 hectares de terres agricoles. Il faut savoir que le plateau de Saclay, autrefois, il allait de Trappes, voire plus loin, jusqu'à Palaiseau, et que donc ça faisait 7 000 ou 8 000 hectares. Aujourd'hui, il en reste donc 2 400. Donc ce tronçon ouest qui va de Saclay à Versailles, il ne s'arrête pas sur 7 km. On va certainement y rajouter une ou deux gares, et ces deux gares feront le cheval de Troie de l'urbanisation de cette zone agricole qui aujourd'hui subsiste encore.
Est-ce que tu peux prendre le temps de nous expliquer la notion de ville dissociée que favoriseraient ces nouvelles lignes de métro? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi une ville dissociée? Et pourquoi on pourrait craindre qu'elle se multiplie selon vos travaux rassemblés dans l'imposture du Grand Paris Express?
Oui, ce terme, il est dû à Jacqueline Lortiboire.
Socio-urbaniste
Elle se présentait comme urbaniste socio-économiste. Bon, on peut la qualifier comme urbaniste, mais elle tenait beaucoup à cette partie socio. Donc elle a défini ça comme une ville ou un quartier ou un territoire où les gens qui y habitent n'y travaillent pas et les gens qui y travaillent n'y habitent pas. Autrement dit, il y a un grand chassé-croisé de gens qui vont aller travailler ailleurs et des gens qui viennent travailler depuis ailleurs. Et c'est pire qu'une ville dortoir parce que ça crée encore plus de trafic. Mais on a déjà cette situation aujourd'hui à Saclay. Il y a beaucoup de gens qui travaillent ailleurs qu'à Saclay, il y a très peu de gens qui travaillent sur place. Contrairement à ce qu'on constate à Saint-Quentin-en-Yvelines, plus Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est la seule ville nouvelle qui a réussi grâce au fait, je pense, qu'elle était adossée à la ville de Versailles. Là, on constate qu'il y a ce qu'on appelle nous, une zone cohérente, c'est-à-dire une zone où disons 60% des gens travaillent au même endroit, à proximité de leur domicile, disons. Donc ça, c'est la notion de ville dissociée. Et puis cette structure, elle va être encouragée par les projets tels qu'ils existent aujourd'hui, par le Grand Paris Express et par le SDRIF, qui, contrairement à sa volonté de créer une structure polycentrique en Île-de-France, va en fait renforcer la structure monocentrique telle qu'on la connaît aujourd'hui. On espère qu'autour des gares du Grand Paris Express, les gens vont s'agglutiner et puis travailler sur place. Alors c'est une absurdité puisque...
Pourquoi tu peux...
C'est pas la peine de se mettre à côté d'une gare pour aller travailler sur place. C'est ça l'absurdité. Il faudrait faire le contraire, il faudrait décélérer Il faudrait diminuer le nombre de liaisons rapides. Partout où on crée des liaisons rapides, ça, les gens ne comprennent pas que une liaison rapide comme ça, ça crée automatiquement, mécaniquement, de l'étalement urbain. Et, on pense que ça va faire gagner du temps. Or, il n'en est rien. Depuis 50 ans, depuis qu'on mesure le temps que les gens passent dans les transports, on constate que le francilien moyen, il dépense à peu près 90 minutes par jour dans les transports. Et ça n'a jamais bougé depuis 50 ans. Et pourquoi ? C'est parce que quand on crée des liaisons rapides, les gens profitent pour de la vitesse gagnée pour aller se déplacer plus loin. C'est tout bête. Mais dans l'esprit des élus, ça, on va gagner du temps.
Alors, on rentre dans la dernière partie déjà de notre échange, où il s'agirait pour nous de creuser un petit peu la critique de la vitesse qu'il y a derrière, ne pas en rester non plus aux infrastructures, à une analyse sociologique ou politicienne, mais de comprendre qu'il y a aussi une logique, disons, plus profonde, plus structurante, que permet de toucher une critique de la vitesse. Donc je lis un extrait d'un livre d'Ivan Illich. Ivan Illich, un des principaux critiques de nos sociétés industrielles. Le livre s'appelle « Énergie et équité ». Il a été publié au Seuil en 1975 et il a été réédité assez récemment chez Artaud. L'usager ne voit pas l'absurdité d'une mobilité fondée sur le transport. Sa perception traditionnelle de l'espace, du temps et du rythme propre a été déformée par l'industrie. Il a perdu la liberté de s'imaginer dans un autre rôle que celui d'usager de transport. Sa manie des déplacements lui enlève le contrôle de la force physique, sociale et psychique dont ses pieds sont dotés. L'usager se voit comme un corps emporté à toute vitesse à travers l'espace inaccessible. Automobiliste, il suit des itinéraires obligés sans prendre possession du sol, sans pouvoir y marquer son domaine. Abandonné à lui-même, il est immobile, isolé, sans lieu. Devenu un objet qu'on achemine, l'homme parle un nouveau langage. Il va en voiture retrouver quelqu'un. Il téléphone pour entrer en contact. Pour lui, la liberté de mouvement n'est que la liberté d'être transporté. Il a perdu confiance dans le pouvoir politique qui lui vient de la capacité de pouvoir marcher et parler. Il croit que l'activité politique consiste à réclamer une plus large consommation de ses services qu'il l'assimile à une simple marchandise. Il ne demande pas plus de liberté pour des citoyens autonomes, mais de meilleurs services pour des clients soumis. Il ne se bat pas pour garantir sa liberté de se déplacer à son gré et de parler aux autres à sa manière, mais pour asseoir son droit d'être véhiculé et informé. Il désire de meilleurs produits et ne veut pas rompre l'enchaînement à ses produits. Il est urgent qu'il comprenne que l'accélération appelée de ses vœux augmentera son emprisonnement et qu'une fois réalisées ses revendications, marqueront le terme de sa liberté, de ses loisirs et de son indépendance. Je me permets d'enchaîner par un deuxième petit extrait tiré du livre d'Olivier Rey, qui est un des continuateurs, notamment d'Ivan Illich, qui s'appelle « Une question de taille » qui a été publié en 2014 chez Stock. Ce n'est pas seulement pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons sociales, que la rapidité des transports et, plus généralement, la quantité d'énergie consommée aurait dû rester modérée. On se gargarise de démocratie, mais l'exercice véritable de la démocratie ne consiste pas à mettre de temps en temps un bulletin de vote dans une urne, ni à formuler ses doléances dans des réunions avec des élus. Il signifie que les citoyens participent activement à la vie de la cité et s'en remettent d'abord à eux-mêmes pour les choses qui les concernent. Pour que cela demeure possible, les écarts sociaux doivent respecter certaines limites et le monde environnant demeurer à la mesure de la personne humaine. Deux conditions anéanties quand la circulation de l'énergie devient trop intense. Indépendamment même des dommages causés à la nature, il existe, selon Illich, un seuil au-delà duquel la quantité d'énergie consommée se met à corrompre le milieu social et à le désintégrer. Je le cite Illich. Même si on découvrait une source d'énergie propre et abondante, la consommation massive d'énergie aurait toujours sur le corps social le même effet que l'intoxication par une drogue physiquement inoffensive, mais psychiquement asservissante. À mon avis, dès que le rapport entre force mécanique et énergie métabolique dépasse un seuil fixe déterminable, le règne de la technocratie s'instaure. Entre des hommes libres, des rapports sociaux productifs vont à l'allure d'une bicyclette et pas plus vite. Fin de citation. Alors, rentrons un petit peu dans ce sujet. Tu t'es dit influencé par un urbaniste, peut-être que tu peux le présenter d'ailleurs, qui s'appelle Marc Viel. Il y en a un autre dans la salle ici. Et Marc Viel disait donc trop de vitesse fait perdre du temps à tout le monde. Et est-ce que tu peux nous dire un mot de Marc Viel? Et peut-être, je ne sais pas dans quelle mesure tu connais un petit peu l'œuvre d'Ivan Illich. Ivan Illich a donc théorisé les seuils de contre-productivité. Ce sont des seuils à partir duquel une institution, une infrastructure étant censée nous faire gagner du temps en nous transportant, finit par nous en faire perdre de plus en plus. Ou il a appliqué son analyse à l'école ou au réseau de distribution de l'eau. Et il dit par exemple pour l'école, à un moment donné, cette institution est en mesure d'apprendre à des êtres humains un certain nombre d'éléments. Passer un degré de complexité d'industrialisation, il apprend l'ignorance.
Pour moi, tout ça, ça revient au même problème quand on installe une ligne de transport rapide, on provoque des relocalisations des ménages et aussi des entreprises d'ailleurs, qui fait que les trajets s'allongent, que les gens se remettent, s'implantent plus loin en périphérie. Et qu'au centre, ça se gentrifie, et qu'à la fin du compte, on crée de l'étalement urbain associé à de la ségrégation sociale, parce que les plus démunis sont rejetés le plus loin en périphérie. Trop de vitesse, trop de moyens de se déplacer rapidement, fait perdre du temps à tout le monde. Ça, bon, c'est un aphorisme, évidemment. C'est pas forcément vrai partout, mais c'est l'idée générale qu'on gagne rien avec des opérations qui induisent des effets rebonds qui font qu'on avance de rien et qu'en réalité on recule. Une chose qu'on n'a pas dite jusqu'à présent, c'est le coût de ce projet. Tu as parlé de 60 milliards, c'est une valeur largement dépassée. Dans un rapport de la Cour des comptes en avril 2024, la Cour des comptes évalue le coût total du Grand Paris Express, si on y inclut les frais financiers, parce qu'ils sont escamotés jusqu'à présent, si on les inclut, ça coûte déjà 80 milliards. Ça, c'était l'état des lieux en avril 2024. Entre-temps, il y a des lignes qui ont été encore repoussées. La ligne 15 Sud n'arrête pas de se faire repousser. La ligne 18, même la ligne 18 dont on pensait que c'était assez sûr, a été retardée là récemment. Le coût réel, avec Jean Vivier et d'autres, Jean-Pierre Hoffeuille, on pense que le coût final du Grand Paris Express, ce sera plutôt du nombre de 100 milliards. Or, si on regarde les évaluations socio-économiques avec tout le Bataclan artificiel des, les bénéfices non conventionnels qu'a introduit la SGP. Même avec tout ça, on arrive que à 69 milliards de bénéfices. Moyennant quoi, le projet, il est déjà largement déficitaire. Il le sera de plus en plus avec les retards supplémentaires qui s'annoncent.
Donc le Grand Paris Express, c'est un moyen pour la technocratie de tenter de maintenir Paris comme une ville-monde. C'est un mot, je ne sais pas si on l'a emprunté depuis le début, qui est assez important dans l'imaginaire gestionnaire, qui veut donc faire de Paris un lieu de croisement de différents capitaux économiques, symboliques, culturels, touristiques, etc., scientifiques, technologiques, à l'instar de Shanghai, Tokyo, New York et Londres. Je crois qu'ils sont les quatre principales villes-monde.
Il y a toute une hiérarchie, de cette notion de ville-monde. Ça vient d'une université anglaise. Paris est une ville-monde depuis toujours, donc la question ne se pose même pas. C'est totalement idiot de dire que Paris risque de perdre son statut de ville-monde. Enfin, ça c'est juste du marketing.
Eh bien, c'est justement une bonne transition pour conclure, car ce concept Paris-Ville-Monde, ça a été ressassé par le fameux Christian Blanc dans un livre éponyme qu'il a sorti en 2015, ce qui lui permettra de réapparaître au grand jour dans ce débat du Grand Paris, il y a donc 10 ans. Voilà pour ces extraits de la discussion avec Harm Smith, et je vous encourage évidemment, pour aller plus loin, à vous plonger dans le numéro 21 du Chiffon, qui a creusé la question, si j'ose dire, avec dextérité et sérieux. Les amis d'Orwell seront de retour dans quelques semaines après une pause estivale avec quelques rediffusions. Les amis d'Orwell, je rappelle, c'est vendredi 21h, les semaines paires sur Radio Libertaire 89.4. Bonne soirée à tous et à toutes.
Des marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes, et ils tournent et ils dansent comme comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Pour faire sauter les plombs de la boîte à fausse donne, je cherche un hélico quelque part pour me tirer. Mais je crois bien que les martiens m'appellent sur l'interphone. Gaja! Le blues m'a délaté, mais c'est sans importance. Quand la bière est tirée, il faut finir son pack. Le blues m'a délaté, je trinque en silence. J'ai de l'autocombustion tout seul dans mon matraque. Gaja! Dans la galerie en criant mes traumas, j'en veux à la première qui m'a laissé tomber. Et je traîne dans cette galerie où ma mère me chanta dans l'oft des bébés, my milk is gonna wet. Gaja! 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 Qui sonne et mes pieds qui s'enfoncent. J'oublie toujours le nom de ces villes où je suis né. J'ai mon carteur qui sonne et le cœur qui bronze. J'ai fini par fumer ma carte d'identité. Hey, gaja! Ma tête a éclaté d'un tour de manigance. Moi je voulais bourlinguer sur Cumulonimbus. Ma tête a éclaté, bonjour l'homo sapiens. Si t'as peur de te mouiller, retourne à ton fœtus. Hey, gaja! 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 Gaja!
Ah. l'atelier de Hieronymus Bosch, avec les yeux drapés de la pile azulie. Je suis dans cet atelier, mais il faut que je décroche. Les anges font des cauchemars au fond du paradis. Si ces gens recruteurs me demandent de parloir, avec des mégaphones pour compter les CD. Mais ces gens recruteurs me jouent le jour de gloire. Mais moi je suis mongolien, chromosome inconnu. Hey,
tcha-tcha! Tcha-tcha!
Just about the worst gun battle ever out on the western plains. When me and a bunch of cowboys run a run in with Jesse James. Come a cow, cow, yicky, come a cow, cow, yicky, yicky, yay. Run into Jesse James, boys. Run into Jesse James. Guns went off like thunder and the bullets fell like rain. Come a cow, cow, yicky, come a cow, cow, yicky, yicky, yay. The guns went off like lightning and the bullets fell like hail. Was on our way to Denver on the old Dodge City Trail. Come a cow, cow, yicky, come a cow, cow, yicky, yicky, yay. And in that bloody battle with Frank and Jesse James, my partners fell around me with bullets in their brains. Come a cow, cow, yicky, come a cow, cow, yicky, yicky, yay. Frank and Jesse James, boys, they robbed that midnight mail. The bank and express station and broke the county jail. Come a cow, cow, yicky, come a cow, cow, yicky, yicky, yay. If you're afraid to fight, boys, if you're afraid to die, you'd better stay out of the Badlands where the red-hot bullets fly. Come a cow, cow, yicky, come a cow, cow, yicky, yicky, yay. if you're afraid of dying, if you're afraid of death, you'd better stay at home, boys. Stay out of Jesse's path. Come a cow, cow, you can come a cow, cow, you can, yeah. Come a cow, cow, you can come a cow, cow, you can.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Si le bon Dieu l'avait voulu, l'enturlurette, l'enturlu, j'aurais connu la Cléopâtre et je ne t'aurais pas connu. J'aurais connu la Cléopâtre et je ne t'aurais pas connu. Sans ton amour que j'idolâtre, là que fussé-je devenu. Si le bon Dieu l'avait voulu, j'aurais connu la Messaline, Agnès, Odette et Mélusine, et je ne t'aurais pas connu. J'aurais connu la Pompadour, Noémie, Sarah, Rebecca, la fille du Royal Tambour, et la Mogador et Clara. Mais le bon Dieu n'a pas voulu que je connaisse leurs amours. Je t'ai connu, tu m'as connu, gloire à Dieu au plus haut des nus. Là que fussé-je devenu, sans toi la nuit, sans toi le jour. Je t'ai connu, tu m'as connu, gloire à Dieu au plus haut des nus.
Enfin prendre du repos, j'ai dégoté le soleil. S'il se couche sur une bière, c'est la mer. S'il est pas fou, c'est une merveille qui met le cafard en état de guerre. Sûr, c'est pas du pôle Nord, son sourire brûlant. Son voyage n'est que d'ici. On le croit d'ailleurs, c'est marrant. Lui qui pensait n'avoir qu'une vie. Imagine, si Magid s'en va. Et nos rêves, qui dont les boira. On a tout regardé, mon grand frère sans papier. On a rêvé tous les mélanges. Je n'aurais jamais parié qu'un jour on dirait que tu déranges. Voici l'heure, ma grande gueule, de faire taire ton honneur. Toi qui portais la tête haute, t'apprendras tes chaussures par cœur. Les flics du métro savent ta faute. Imagine. Si Magid s'en va, et nos rêves, qui dont les boira. Pareil qu'il y en a qui veulent charteriser un pot double, qu'on veut virer notre prince arabe, qu'on orphelinise donc sa cour, qu'on le perde dans un panier de crabes, et nos larmes amères couleront le pays. On n'a pas le cœur en map monde. Qui peut prétendre trier nos vies, affûte les armes de la fronde, imagine. Imagine si Magid s'en va, et nos rêves, qui dont les boira. Imagine si Magid s'en va. Imagine. We'll be right back.
Depuis que toi et moi, on en pince. Dans la vie, on est comme des princes. Les autres et leur petite cuisine. On s'en fout, beurre ou margarine. T'es mon ordinaire, c'est super. Je carbure tous les jours à ton air. On fait le plein d'amour, ça énerve. Qu'on soit jamais sur la réserve. Même si tu mènes par le bout du nez. J'adore ces voyages en apnée. Avec pour seule occupation ton cœur patio, ton cul passion. Paraît que l'amour ça rend idiot. En tout cas ça fait le monde plus beau. Le mec cravate dans son écran peut me dire que l'époque est à cran. Aujourd'hui plus envie d'entendre toutes ces infos bonnes à se pendre. Le cash, le pouvoir qui rend dingue. Les calaches, les gamins qui se flinguent. Le zorro des fâcheux fachos. Le méchant, les bombes, les drapeaux. Fini tous les fils à la patte. J'en ai ma dose des psychopathes. J'éteins la haine qui va, qui vient. Plus que du bonheur en magasin. Paraît que l'amour ça rend idiot. En tout cas ça fait le monde plus beau. Au monde crado dans les infos. De loin je préfère l'amour idiot. La guerre, le virus, les vaccins, y en a plus quand je vais qu'à tes seins. Sur tes montagnes, je fais de l'escalade, pas trouvé mieux comme escapade. Glisser le long de ta peau d'or, ça vaut bien toutes les vagues d'Osgore. Tous nos frissons, c'est le paradis, la belle vie pour pas un radis. Y a du soleil dans ma guitare, envoler toutes mes idées noires. Comment veux-tu que je sois plus accro? C'est mon médoc anti-salaud. Paraît que l'amour, ça rend idiot. En tout cas, ça fait le monde plus beau. Au monde crado, dans les infos. Sûr que je préfère l'amour idiot. Paraît que l'amour, ça rend idiot. En tout cas, ça fait le monde plus beau. Au monde crado, dans les infos. Sûr que je préfère l'amour idiot. L'amour idiot. L'amour idiot. L'amour idiot.
cœur des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, que les gros puissent se coinfrer, que les petits puissent engraisser. Ah, faut que ça saigne. Faut que les mandataires au hall puissent en fourrer plein la dalle, du filet à 800 balles. Faut que ça saigne. Faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paver, que la tête aille mariner. Faut que ça saigne. Faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comme ac. Faut que ça saigne bien fort. C'est le tango des joyeux militaires, des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes va en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne. Appuie sur la baïonnette, ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne. Démolissons quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sentir le raisin. Faut que ça saigne. Si c'est pas toi qui les crève, des copains prendront la relève, et toujours la vie est brève. Ça saigne. Demain, ça sera ton tour. Demain, ça sera ton jour. Plus de bonheur, mais plus d'amour. Faut que ça saigne.
You feel the death. Hiroshima. Destroy another fetus now. We don't let children anyhow. I've seen the future, baby. It is murder.
Les ponts de Paris, j'ai traîné la savate à l'âge où je croyais qu'on pouvait y dormir. Mais plus je vieillissais, plus j'avais froid aux pattes. À 4 heures du matin, je préférais partir. Alors je m'en allais, mais sans quitter la Seine, en suivant le serpent qui glisse doucement sous les ponts de la ville, d'Austerlitz à Grenelle. Même le quai des Orfèvres est un endroit charmant. Le pont neuf, à l'époque où ses pierres étaient blanches, remplaçait à la fois le théâtre français et le cirque d'hiver. On y faisait la manche, on y rigolait ferme et les siècles passaient. Moi, j'ai réveillonné sous le pont Notre-Dame. Il y avait du hareng sort autant qu'on en voulait. Le rouquin de Bercy et l'odeur de la cam qui flottait tout partout. Alors, je m'en allais. Les 12 douzaines de ponts de Paris, ma grande ville, s'écrouleront peut-être un jour, on sait jamais. La planète a parfois des tournants difficiles. Ce sera pour nous tous comme si l'on rêvait. Je viendrai à tâtons y faire des pèlerinages. De somptueux fantômes viendront m'accompagner pour voir sur les cailloux pousser la fleur de l'âge. L'âge d'or d'un Paris qu'on n'a pas su garder. Tous les ponts de Paris connaissent notre histoire. Une histoire d'amour qui n'a pas fait long feu. C'était encore l'époque où j'aimais pour la gloire. Je croyais qu'on pouvait refaire le monde à deux. J'en suis bien revenu. À présent, l'eau de Seine n'est plus qu'une eau qui va, qui vient, qui suit son cours. Et je me dis souvent, quand j'ai le cœur en peine, le seul pont de Paris, c'est le pont Caulaincourt.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Tous ces bijoux qui brilleront sans toi quand tu ne seras plus là. Tous ces voyous qui ouvriront leurs bras à d'autres gosses qu'à toi. Tous ces baisers qui font des nuits cousues dans de drôles de tissus. Toutes ces pensées que l'on voit dans la rue aux bras des inconnus. Tu veux tout ça maintenant, avant que tu ne sois trop vieille, avant qu'on ne t'emporte derrière la dernière porte qu'on fermera sur tes merveilles. Maintenant, les plaisirs qu'on achète avec des mains de femme, les sourires que l'on prête aux objets qu'ont une âme. Maintenant, les voyages en voiture au volant d'une romance, les parfums, les fourrures pour pas que s'enrhume la chance. Maintenant, les beaux calendriers où le soleil s'allume quand le soir va tomber dans un lit de fortune. Maintenant,